Je vous en prie.
Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous toutes et tous de m'accueillir. Écoutez, je vais commencer peut-être par l'état de la recherche. C'est à partir de là que je vais aborder les autres problèmes, parce que, si vous voulez, maintenant, on commence à mesurer, disons, les bouleversements que connaissent les études sur les origines de l'islam et du Coran. Donc, on sort maintenant d'un certain nombre, disons, de clichés qui avaient cours depuis plus d'un siècle sur l'islam, sur Mahomet, sur le Coran, etc. Parce que, comme il y a un islam orthodoxe, il y avait aussi, et il y a encore, une islamologie orthodoxe, c'est-à-dire qui se fonde justement sur les données, en quelque sorte, du catéchisme musulman pour présenter l'islam. Et on sait maintenant que, si vous voulez, ce genre de présentation est absolument insoutenable sur le plan scientifique. Alors, comme j'ai moins de temps que prévu, bon, je vais essayer
Vous pouvez. Non, il n'y a pas moins de temps. Hein. Vous pouvez décaler un peu, il n'y a pas de problème. Hein.
C'est-à-dire que je dois vous quitter vraiment vers 20h30. Donc, c'est pour cela. Mais bon, je vais essayer de dire ce que j'avais à vous dire. Alors, donc, si vous voulez, bon, les études, je vais vous parler surtout des origines de l'islam et du Coran. Et les études scientifiques sur ces origines ont commencé, disons, dans la première moitié du 19e siècle. Et donc, il y a toute une série de très grands islamologues et arabisants qui ont jalonné cette histoire. Mais je vais vous parler, disons, de deux révolutions, entre guillemets. D'abord, dans les années 1970, surtout en Angleterre et en Allemagne. Je vais vous épargner le nom des grands savants et de leurs œuvres, mais disons, il y a eu deux écoles en Angleterre et en Allemagne qui ont fondé en quelque sorte un nouveau paradigme. Et en gros, si vous voulez, ce qu'ils ont établi de manière extrêmement convaincante, c'était deux choses. D'abord, le fait que les sources islamiques ne sont absolument pas crédibles pour ce qui est l'origine de l'islam et du Coran. C'est-à-dire, et je vais y revenir, ces sources ont été écrites longtemps après, d'abord, ces temps des origines, et puis même, ils se fondent sur des données qui ont été élaborées dans une ambiance de guerre civile. Donc, chaque auteur écrit pour sa faction, pour son courant théologico-politique, et donc, on arrange la réalité comme on l'entend. Et donc, si vous voulez, alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il faut jeter à la poubelle ces sources, mais simplement, il fallait les lire de manière beaucoup plus critique qu'on ne l'a fait jusque-là, et puis surtout, non pas essayer d'aplanir les contradictions, au contraire, c'est ce que avaient fait jusque-là les islamologues, mais au contraire, d'étudier les contradictions qui existent entre les sources sur les points les plus, je dirais, fondamentaux, comme la vie de Mahomet, comme l'élaboration du Coran, comme la naissance de l'islam, etc. Donc, si vous voulez, la vision, je dirais, critique des sources islamiques pour ce qui est les origines de l'islam et du Coran. Deuxième chose qu'ont fondé ces courants scientifiques, c'est qu'il fallait intégrer de manière massive, disons, les sources issues d'autres traditions. Des sources non islamiques, bien sûr, il faut les regarder également de manière critique, mais il faut les intégrer dans l'étude des origines de l'islam et du Coran, c'est-à-dire les sources juives, les sources chrétiennes, les sources zoroastriennes, alors chrétiennes de différents courants, hein, le christianisme éthiopien, le christianisme syriaque, le christianisme grec, latin, etc. Donc, il fallait intégrer également, c'est-à-dire ces sources contemporaines, ce sont des sources qui datent des confins du 6e et 7e siècle, donc exactement contemporains de l'avènement de Mahomet et de l'origine du Coran. Donc là, c'est ce qu'on a appelé en anglais « 70s shock », le choc des années 70, parce que, si vous voulez, ça a complètement bouleversé, si vous voulez, l'approche et la méthodologie des études sur les origines du Coran et de l'islam. Deuxième révolution, entre guillemets, ce sont les années 2000, début des années 2000 en Allemagne et aux États-Unis, c'est-à-dire par la dynamique créée par les savants des années 1970, il y a eu une multiplication, disons, de groupes de recherche, de courants de recherche un peu partout. Et donc là, de nouveaux apports, c'est d'abord, si vous voulez, l'intégration d'autres domaines de scientifiques à l'étude des origines de l'islam, c'est-à-dire l'intégration de ce qu'on appelle les sciences matérielles, c'est-à-dire l'archéologie, c'est-à-dire l'épigraphie, c'est-à-dire la codicologie, la paléographie, etc. Donc, si vous voulez, on a intégré dans les groupes de recherche sur les origines de l'islam et du Coran des archéologues, des épigraphistes qui n'étaient pas forcément des spécialistes de l'islam, mais simplement c'était des grands archéologues et donc les spécialistes de ce qu'on appelle l'histoire matérielle et surtout, si vous voulez, avec l'ouverture d'un certain nombre de fouilles en Arabie qui ont là aussi ouvert de nouvelles perspectives. Donc, l'intégration des sciences matérielles et puis, si vous voulez, ce qu'on a acquis au début des années 2000 et on continue, c'est, si vous voulez, le poids de plus en plus grand du christianisme de langue syriaque dans la formation, je dirais, spirituelle aussi bien de Mahomet lui-même que dans le Coran. C'est-à-dire que jusque-là, on avait bien sûr étudié surtout l'influence du judaïsme, mais avec le temps, on s'est rendu compte que ces données juives, ces doctrines et ces croyances avaient atteint très probablement l'Arabie par l'intermédiaire des courants chrétiens de langue syriaque, ce qu'on appelle les christianismes au pluriel orientaux. Et donc, simplement, ces courants de langue syriaque, ces courants chrétiens, avaient en leur sein encore, au 6e, 5e, 6e, 7e siècle, énormément d'éléments juifs, surtout sur le plan juridique. Donc, si vous voulez, donc, il y a eu une inflexion dans cette donnée qui existait dans les études sur le Coran et sur les origines de l'islam depuis le 19e siècle. L'influence juive, certes, mais cette influence juive est arrivée à l'islam et au Coran, surtout par l'intermédiaire des courants, soit chrétiens, soit judéo-chrétiens. J'y reviendrai. Alors, donc, et si vous voulez, pour résumer et puis pour transition avec ce que je veux dire dans un deuxième temps de mon exposé, c'est que on a compris, si vous voulez, que le Coran est un texte problématique. C'est un texte problématique. D'abord, on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas d'un texte monolithique, mais il s'agit d'un corpus, d'un ensemble de textes, donc de différents genres littéraires. Hein. Nous avons des prières, des textes apocalyptiques, des hymnes, des textes juridiques, des sermons, des conseils, des contes, etc. Donc, un corpus de textes qui sont parfois, d'ailleurs, sans rapport les uns avec les autres. Et puis, on s'est rendu compte que c'est un texte sans contexte. C'est-à-dire que, et j'y reviendrai, il y a très peu, disons, de données d'ordre historique, d'ordre géographique, d'ordre contextuel, etc. Donc, c'est devenu même une sorte d'adage dans les milieux qui étudient les origines du Coran, que le Coran est un texte sans contexte. Et si vous voulez, tout ça aboutit à la conclusion que le Coran est un texte problématique. Alors, ce que je veux dire dans le deuxième temps de mon exposé, c'est que le Coran, bien sûr, si vous dites cela à un musulman actuel, il n'acceptera pas, n'est-ce pas? Il dira, bon, le Coran est un texte extrêmement clair, c'est la parole de Dieu, c'est une parole miraculeuse, il n'y a pas plus clair que le Coran. Mais, en fait, si vous voulez, ce sont des données apologétiques, ce genre de choses, et ce sont des données qui relèvent de la croyance et de la confession. Mais, objectivement parlant, le Coran était problématique déjà pour les premiers musulmans. Et ça, si vous voulez, on peut le dire par un certain nombre d'exemples, c'est que, si vous voulez, très tôt sont nés dans le milieu musulman et parmi les lettrés, ce qu'on appelle les sciences coraniques. Les sciences coraniques étaient un ensemble de savoirs qui essayait d'expliquer les différents aspects du texte coranique. Et quand on regarde ces sciences coraniques, on se rend compte qu'effectivement, le Coran posait problème aux premières générations de savants musulmans. Je prends quelques exemples justement de ces sciences coraniques. La première science coranique, c'est ce qu'on appelle la composition du Coran, en arabe, Nazm al-Qur'an, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y avait des controverses au début de l'islam entre les musulmans et les savants venus d'autres religions, c'est-à-dire des peuples conquis, des controverses entre les musulmans et les savants juifs, chrétiens, manichéens, etc. Et une critique répétitive que venait de la part de ces savants d'autres religions, on demandait aux musulmans, pourquoi votre texte il est comme ça? C'est-à-dire, ça n'a ni queue ni tête, c'est un texte complètement déstructuré, fragmenté, on passe d'un sujet à l'autre, on reconnaît là-dedans nos propres histoires, des histoires bibliques, mais simplement, si vous prenez l'histoire de Moïse, le début est à la fin du Coran, la fin est au début, donc on a l'impression qu'on a coupé ces choses-là en morceaux et qu'on les a dispersées tout le long de ce texte. Et les musulmans n'avaient pas quoi répondre, et ils étaient embarrassés. Et donc, ils ont mis sur pied cette science qui a donné naissance à un genre littéraire qu'on appelle justement la composition du Coran, et ils ont essayé de répondre à ces critiques, c'est-à-dire de justifier ce non-style, en quelque sorte, ce style qui n'en est pas un, du Coran. Et quand on regarde les différents livres qui composent ce genre littéraire, on se rend compte que les différents auteurs, les différents savants, apportent des raisons différentes. C'est-à-dire les justifications divergent selon les auteurs. Que peut-on conclure? C'est que ces savants musulmans ne savaient pas pourquoi le Coran il est comme ça. Autre science coranique, c'est la chronologie de la révélation. Là aussi, si vous voulez, on le sait, les musulmans le savent eux-mêmes, le Coran tel qu'on le connaît a complètement chamboulé, bouleversé l'ordre chronologique de la révélation. C'est-à-dire que les sourates sont divisées selon la tradition qui divise la vie du prophète en période mécoise et en période médinoise. Donc nous avons des sourates mécoises et des sourates médinoises, c'est-à-dire celles qui sont censées avoir été révélées à la Mecque et d'autres à Médine après l'Hégire. Mais à l'intérieur des sourates mécoises, il y a des versets médinois, et à l'intérieur des sourates médinoises, il y a des versets mécois. Et on ne sait pas pourquoi. Et puis, on a opté pour un ordonnancement tout à fait particulier, très curieux, c'est-à-dire les sourates, les chapitres les plus longs au début, et puis plus on avance dans le courant, la taille des sourates se réduisent. Donc, nous avons au début les sourates longues qui font, je ne sais pas, dans la version imprimée, 40 ou 50 pages, et puis les sourates finales, les 30, 40 sourates finales, font parfois 2 lignes. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi on a opté pour cet ordre-là, cet ordonnancement. Donc, beaucoup de savants religieux ont essayé de retrouver l'ordre chronologique des sourates. Et là aussi, nous avons toute une série de livres qui ont essayé d'établir l'ordre chronologique des sourates et des versets. Et nous avons des listes absolument différentes les unes des autres. C'est-à-dire, nous avons des listes du 9e, 10e, 14e, 15e siècle, hein, des auteurs différents, des spécialistes du Coran, des spécialistes musulmans, et nous avons des listes chronologiques absolument différentes. Donc, c'est-à-dire que les musulmans ne connaissaient pas l'ordre chronologique des sourates et des versets. Autre science coranique, ce sont les circonstances de la révélation. Asbab al-Nuzul, en arabe, les circonstances de la révélation, c'est-à-dire que les savants musulmans ont essayé de trouver dans quelles circonstances tel ou tel verset, tel ou tel ensemble de versets ou tel sourate ont été révélés. Donc, à l'occasion, je ne sais pas, de la naissance d'un enfant du prophète, d'un mariage, d'une bataille, d'une famine, d'un tremblement de terre, etc. Donc là aussi, ça a donné naissance à un genre littéraire qu'on appelle les circonstances de la révélation. Et quand on regarde les livres qui composent ce genre littéraire, nous avons des circonstances de révélation différentes pour un même verset. Ça peut aller jusqu'à 14 ou 15 circonstances différentes. Donc, ce qui montre que les savants musulmans ne connaissaient pas ou ne connaissaient plus très tôt, hein, au bout d'un siècle et demi, les circonstances de la révélation. Et peut-être enfin, un dernier exemple des sciences coraniques, c'est ce qu'on appelle la science de l'abrogation. La science de l'abrogation, c'est une science qui a été mise sur pied pour justifier, pour apporter une réponse à un certain nombre de contradictions que l'on trouve dans le Coran. Contradictions, je vous donne deux exemples. Le vin. Le vin, donc, on a trois positions différentes dans le Coran. C'est un breuvage paradisiaque, au même titre que le lait et le miel. C'est quelque chose qu'on ne doit pas boire au moment de la prière, donc en creux, c'est-à-dire on peut en boire en dehors du temps de la prière. Troisième position, c'est une boisson satanique, démoniaque, absolument interdite. Donc, quelle position prendre? Et c'est difficile, d'autant plus qu'on ne connaît pas vraiment l'ordre chronologique des sourates. Autre contradiction, la position du Coran par rapport aux autres religions. Par exemple, par rapport aux juifs et aux chrétiens. Donc, ça va de l'admiration jusqu'à l'intolérance. L'admiration, c'est-à-dire le peuple juif, est appelé à deux endroits du Coran, le peuple élu, hein, le peuple élu de Dieu. Les moines chrétiens sont présentés comme étant les créatures les plus aimées, les plus admirées par Dieu. Donc, vous avez ce genre de tradition où il y a véritablement une sorte de déloge à l'égard des autres monothéistes, en particulier les juifs et les chrétiens. Et puis, il y a le fameux verset du sabre, n'est-ce pas, de la sourate 9, où il dit, bon, vous demandez aux juifs et chrétiens de se convertir, ils ne le font pas, vous les tuez. Donc, là aussi, contradiction flagrante. Donc, comment comprendre ces contradictions? Et donc, les musulmans étaient embarrassés et ont mis sur pied quelque chose qu'on appelle l'abrogation, c'est-à-dire qu'il y a des sourates plus récentes qui viennent abroger, et des versets plus récents qui viennent abroger des versets plus anciens. Alors, d'abord, ça a posé des problèmes théologiques à pas mal de savants, c'est-à-dire qu'ils ont dit, qu'est-ce que c'est ce Dieu qui change de décision, donc ça n'allait pas, tous les musulmans n'ont pas accepté cette théorie-là. Et puis, si vous voulez, comme on ne connaissait pas, on n'était pas d'accord sur la chronologie des versets, donc on ne savait pas quel verset vient abroger l'autre. Donc là aussi, une science coranique, un genre littéraire, et quand vous regardez les livres, le nombre des versets abrogeant et abrogés varie, tenez-vous bien, entre 3 et 400. 3 et 400. C'est-à-dire, pour certains savants, il y a 3 versets qui viennent abroger 3 autres. D'autres qui disent 10, d'autres qui disent 100, d'autres qui disent 200, et ça va jusqu'à 400. Ce qui montre que, effectivement, on ne savait pas répondre, quoi répondre aux contradictions du Coran, et on ne savait pas quels sont les versets qui en abrogent d'autres. Alors, petite note de bas de page, la question qui se pose, c'est que pourquoi finalement l'islam ou le droit musulman a toujours opté pour la position la plus dure, puisque la chronologie n'est pas connue. Pourquoi finalement le vin a été interdit? On aurait très bien pu dire, bon, le verset qui interdit le vin est plus ancien que celui qui le présente comme un breuvage paradisiaque. Pourquoi finalement on a opté pour les versets de l'intolérance? En disant, ce sont ces versets-là qui abrogent les sourates de la tolérance. On aurait pu très bien opter pour l'inverse. Donc, c'est très probablement lié, justement, à ce que je dirai plus tard, c'est-à-dire les conquêtes et, effectivement, le fait que c'est le pouvoir califal qui en a décidé de cette manière, justement, pour opter pour des positions dures. Alors, la question qui se pose, c'est que, pourquoi ce problème? Pourquoi ce texte est si problématique? Et je pense que, si vous voulez, tout ce que je vous dis, ce sont, si vous voulez, les perspectives qui ont été ouvertes par les dernières, par les études depuis les années 70 et puis depuis les années 2000. Et vous trouverez effectivement les synthèses de ces études sur le Coran dans le Coran des historiens qu'a mentionné Xavier tout à l'heure. Il y a deux éléments qui sont à prendre en compte. D'abord, les guerres civiles de l'islam. L'islam est né et s'est développé dans la guerre civile. Les musulmans se sont entretués pendant près de 3 siècles. Juste quelques exemples que tout le monde probablement connaît, mais c'est parfois utile de répéter quelques évidences. Les dernières années de la vie du prophète est passée en bataille, hein, les batailles du prophète. Et quand on regarde les sources, ces batailles, c'était des batailles du prophète contre sa propre tribu, Quraysh, tribu mekkoise, donc contre ses oncles, ses cousins, ses parents, etc. Le prophète meurt, sa succession donne lieu à des violences extrêmes, au cours desquelles, par exemple, sa fille Fatima meurt suite à ses blessures. Le premier calife arrive au pouvoir, Abou Bakr, éclate ce qu'on appelle les guerres des rébellions, c'est-à-dire un certain nombre de fidèles de Mahomet veulent retourner à leur croyance et à leur religion ancestrale. Le premier calife veut les en empêcher. Ça donne lieu à des guerres qu'on appelle les guerres de rébellion, qui ont été extrêmement sanglantes. Deuxième calife, Omar, est l'artisan des grandes conquêtes. Donc là aussi, c'est des guerres. Et il est tué par un esclave, donc converti. Donc il meurt de mort violente. Troisième calife, Osman, qui est mort, assassiné dans une guerre civile, qu'on appelle la première guerre, grande guerre civile, la première fitna de l'islam, mais en fait c'est la deuxième parce que la première était déclenchée à la mort du prophète. Donc il est mort, assassiné. Quatrième calife, Ali, gendre et cousin du prophète, premier imam des chiites, 5 ans de règne, 3 guerres civiles extrêmement sanglantes contre les compagnons du prophète. Et finalement, lui-même, il est assassiné par un de ses anciens fidèles devenu son ennemi. La mort de Ali donne naissance à la première dynastie de l'islam, les Omeyyades, le califat Omeyyade, commence le cycle infernal de la répression féroce des opposants du califat, répression qui déclenche d'autres révoltes armées qui suscitent d'autres répression. Ça dure pendant un peu moins d'un siècle. Les Omeyyades tombent dans une révolution sanglante. L'arrivée au pouvoir de la deuxième dynastie des Abbasides, le califat Abbaside, et la reprise encore des révoltes armées, surtout des chiites, qu'on appelle des Alides, les gens de Ali. La répression du pouvoir califal qui déclenche d'autres révoltes. Et nous sommes à la fin du IIIe siècle de l'Égypte. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on regarde, à peu près la quasi-totalité des grands personnages de l'islam naissant sont morts, assassinés par d'autres musulmans. Là, c'est un cas tout à fait particulier à l'islam. Les guerres civiles et la longévité de ces guerres, c'est-à-dire ces guerres ont duré pendant plusieurs siècles. Alors, nous avons, si vous voulez, quelques statistiques dans les sources historiques aussi bien islamiques qu'en non-islamiques entre les musulmans que pendant les conquêtes. Parce que, si vous voulez, pendant les conquêtes, à cause de la faiblesse des deux empires byzantins et iraniens, beaucoup de les terres, les pays tombaient tout seuls. Hein, très souvent, il n'y a pas eu besoin de guerre. Et puis, les populations vraiment fatiguées, de l'Empire byzantin et de l'Empire sassanide, des guerres et puis des taxes exorbitantes. Bon. Donc, guerre civile. Et puis, deuxième élément extrêmement important, contemporain de tout cela, c'est-à-dire de la naissance de l'islam et du Coran, c'est un événement qui a changé la face du monde, ce sont les conquêtes arabes. Les conquêtes arabes, la naissance de l'Empire, et tout cela au bout de quelques décennies. C'est un phénomène extrêmement rare dans l'histoire, c'est-à-dire moins de 30 ans après la mort du prophète, les Arabes font tomber les deux grands empires de la région, l'Empire byzantin, enfin surtout dans cette ère méridionale et africaine, et puis l'Empire iranien des Sassanides. Donc, le seul exemple, si vous voulez, similaire, ce sont les guerres d'Alexandre, hein, qui ont, là aussi, les conquêtes d'Alexandre ont eu une rapidité extrême. Là, c'est la même chose. Bon, la chose s'explique par le fait que, si vous voulez, justement, ces deux empires étaient en guerre l'un contre l'autre depuis près d'un siècle, et donc les deux pays étaient extrêmement affaiblis et les populations extrêmement fatiguées. Donc, là aussi, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, le Coran et l'islam sont nés dans une ambiance de guerre civile et de conquête et de la naissance d'un empire. Et donc, effectivement, là, ce sont des éléments historiques extrêmement importants. Alors, la question qui se pose, moi, je fais une sorte d'histoire à rebours pour vous donner une idée de la complexité, justement, de la naissance de cette religion et de ces textes sacrés. Pourquoi ces guerres? Pourquoi tant de violence entre les fidèles d'une même religion? Et pour cela, je crois qu'il faut remonter au message de Mahomet lui-même. Au message de Mahomet, et je pense à ce qui constitue peut-être le noyau primitif de ce message. Et là, je vais présenter les choses sous forme d'un syllogisme. Sous forme d'un syllogisme. Premier terme, en syllogisme, Mahomet est venu annoncer la fin du monde. Cette dimension apocalyptique est très, très lourdement présente dans le Coran. Et c'est une dimension qui est souvent un peu négligée dans les études faites sur le Coran et sur Mahomet et sur l'islam primitif. Quand je dis qu'elle est lourdement présente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quelques versets et de quelques sourates, mais de dizaines de sourates et de centaines de versets. Et là, ce qui est annoncé, c'est la fin imminente du monde, la fin imminente. Il y a un ton alarmiste, hein, c'est-à-dire il y a les 30 ou 35 dernières sourates du Coran, qui sont d'ailleurs les sourates les plus anciennes, parce que leur langue est très archaïque. Certains savants considèrent que la seule partie authentique, c'est-à-dire véritablement remontant à Mahomet, c'est cette partie-là, c'est-à-dire les 30 ou 35 dernières sourates, qui font à peu près le 20e, hein, un 20e du Coran. Donc, il y a ces 30 ou 35 dernières sourates, et puis des centaines d'autres versets disséminés dans le Coran qui parlent de la fin imminente du monde, hein, qui mettent en garde les gens, qui les appelle à la compassion, qui les appelle à la prière, au jeûne, à l'aumône, au repentir, parce que la colère de Dieu est en train de tomber, et donc la compassion, l'aumône et la prière, ce sont les seuls moyens de les sauver de la colère de Dieu qui tombe, et du jugement dernier qui se prépare. Alors, nous avons dans l'autre, disons, la deuxième source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith, les traditions prophétiques également, très grand nombre de traditions apocalyptiques, là aussi. De la fin imminente du monde.
Allô, Ali, on a un petit problème là, je crois. Ouais. Ah, mais il est carrément coupé. Il va revenir, je pense.
Très mal. Vous m'entendez?
Ah, voilà. Oui.
D'accord. Oui, c'est bon.
Ça va, on vous entend là, c'est bon.
Très bien. Donc, je disais qu'à ce moment-là, c'est-à-dire aux confins du 6e et 7e siècle, dans toute cette région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, tout le monde pense que la fin du monde est proche. Nous avons, contemporains du Coran, les apocalyptiques juives, nous en avons deux. Il y a deux apocalypses zoroastriennes qui sont contemporaines. Et surtout, nous avons des dizaines d'apocalypses chrétiennes de langue syriaque, dont la tonalité sont très proches, sont très similaires justement, ressemblent beaucoup à ces souvenirs apocalyptiques du Coran. Alors, pourquoi tout le monde pense que c'est la fin du monde? Parce qu'il y a une ambiance de fin du monde. Comme je l'ai dit, les deux empires, byzantins et sassanides, sont en guerre contre l'un et l'autre, l'un contre depuis près d'un siècle. Donc, quand on dit guerre...
Ali, ça recoupe. C'est-à-dire... Ali, ça coupe.
L'eau de massacre de...
Ali, pardon, je vous coupe, mais on ne vous entend pas bien. Je vous propose de couper la vidéo, votre vidéo, et de juste parler, parce que ça coupe trop régulièrement. Ça a coupé à partir du moment où vous disiez que les deux empires étaient en guerre, donc l'ambiance en fin du monde, notamment parce que les deux empires sont en guerre depuis très longtemps.
Oui, ce serait peut-être mieux si vous coupez vos caméras.
Mais c'est surtout la vôtre, je pense, parce que c'est de votre côté qu'il y a des problèmes de débit, manifestement.
Plus de bande passante, effectivement.
Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez?
Oui, je propose que vous coupiez votre vidéo, Ali.
Ah, moi, je coupe, d'accord.
Ouais. Pour limiter la bande passante.
D'accord. Est-ce que vous m'entendez?
Super bien.
Parfait.
Ah, très bien. Très bien. Donc, je continue. Donc, époque et contemporain du Coran, ancien du Coran, nous avons des apocalypses juives et des apocalypses surtout chrétiennes. Et donc, je disais qu'il y avait une ambiance de fin de monde à cause des guerres séculaire entre la Byzance et l'Iran, à cause de, nous savons qu'il y avait des épidémies de peste à l'époque, nous savons qu'il y a eu des éclipses de lune et de soleil, nous savons qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre et de maladies, donc il y a une ambiance de fin de monde, et de ce point de vue-là, le Coran appartient, enfin l'apocalyptique coranique appartient donc à son temps et à son lieu. Donc, Mahomet est venu annoncer la fin du monde. Deuxième terme de mon syllogisme, Mahomet appartient à une culture biblique. Alors, contrairement là aussi, je disais que les sources islamiques ne sont pas fiables pour tout ce qui est les origines de l'islam et du Coran. Alors, les sources islamiques disent que l'Arabie pré-islamique était plongée dans les ténèbres de l'idolâtrie et du polythéisme. Ça, on sait que c'est absolument faux. Non seulement les fouilles archéologiques et l'épigraphie le montrent, mais, disons, la preuve la plus absolue, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire, à côté de quelques versets sur les idoles de l'Arabie pré-islamique, nous avons des milliers de versets qui comportent des données bibliques, c'est-à-dire sur les figures et sur les thèmes bibliques. Nous avons des milliers de versets sur Abraham, sur Moïse, sur Noé, sur Jonas, sur Moïse, bien sûr, sur Salomon, David, et ça vient jusqu'à Jean-Baptiste, Marie et Jésus. Le Coran à lui seul parle plus de Marie que les quatre évangiles synoptiques pris ensemble. Donc, les figures bibliques sont extrêmement présentes, les thèmes bibliques sont présents, c'est-à-dire le monothéisme, c'est-à-dire le prophétisme, hein, c'est-à-dire que Dieu envoie de temps en temps un prophète pour transmettre sa parole à une communauté donnée, et nous avons les données eschatologiques bibliques, hein, le jugement dernier, le fait que les gens seront récompensés ou châtiés selon leurs actes, donc ça, ce sont les trois, disons, piliers de la profession de foi coranique, le monothéisme, le prophétisme et le jugement dernier, là, ce sont des données bibliques. Et en plus, si vous voulez, il y a également le vocabulaire, c'est-à-dire des termes extrêmement importants du Coran, sont des termes en fait syriaques, qui est la langue liturgique des chrétiens d'Orient, et l'hébreu, c'est-à-dire la langue des juifs. Le mot Coran, n'est-ce pas, ce n'est pas de l'arabe, c'est du syriaque. Alors, on pense que c'est de l'arabe parce que c'est à partir du Coran que ces mots sont introduits dans la langue arabe. Mais à l'origine, ce ne sont pas des mots arabes. Qur'an, ça veut dire lectionnaire en syriaque, c'est-à-dire livre de prière, livre de récitation de prière. Le mot surah, qui a donné le mot sourate, chapitre du Coran, n'est pas l'arabe, n'est pas de l'arabe, c'est du syriaque, dans le sens de division d'une écriture. Le mot ayah, qui veut dire verset en arabe, ce n'est pas de l'arabe, c'est du syriaque. Les mots salat, ça veut dire prière quotidienne, ou zakat, ça veut dire aumône, sont des mots syriaques. Le mot hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, c'est de l'hébreu. Le mot Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque, c'est de l'hébreu. Donc, vous voyez, il y a, si vous voulez, il y a la terminologie également est très marquée par les langues sacrées des monothéismes antérieurs, c'est-à-dire du judaïsme et du christianisme. Et puis également, si vous voulez, il y a donc ces données bibliques. Si vous voulez, la thèse qui devient maintenant de plus en plus probable, c'est la thèse judéo-chrétienne, c'est-à-dire l'appartenance de Mahomet à une tendance judéo-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire judéo-chrétienne? C'est-à-dire des juifs qui ont gardé leurs croyances et leurs pratiques. Hein, leurs croyances, c'est-à-dire justement un monothéisme radical, l'eschatologie, le prophétisme. Une sorte d'obsession de la pureté, mais en même temps, c'est-à-dire et également la célébration de Shabbat. Hein, on sait que pendant la vie du prophète, il célèbre le Shabbat, mais également le Yom Kippour. Hein, et puis la circoncision, l'interdiction de manger du porc, etc. Donc des croyances et des pratiques juives, mais également ce sont des juifs mais qui acceptent Jésus comme étant le Christ. Donc c'est ça qu'on appelle en gros les judo-chrétiens. Et là, nous trouvons effectivement toutes ces choses-là dans le Coran. Hein, Jésus est appelé Christ, Al-Masih, dans le Coran, mais à chaque fois, quand le Coran parle de Jésus, avec une insistance particulière, il dit Jésus, fils de Marie. Jésus, le Christ, Al-Masih, Ibn Maryam, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. Donc, nous avons une christologie, si vous voulez, qui est tout à fait particulière, mais qui n'a rien d'arabe. C'est une christologie qui est, bon, c'est un peu technique, qui est anti-nicéenne, contre le Nicée, et si vous voulez, c'est-à-dire, c'est une question de la double nature du Christ, dans quelle mesure il est divin, dans quelle mesure il est humain. Et surtout, il n'est pas fils de Dieu, il est fils de Marie. Et là, c'est la position que l'on trouve dans pas mal de courants chrétiens orientaux, les nestoriens, les arianistes, les monarchianistes, les montanistes, etc. Donc, à sa façon, le Coran participe en quelque sorte aux controverses christologiques qui avaient cours à Byzance et en Iran. Donc, le Coran, tout cela pour dire que Mahomet appartient à une culture biblique. Donc, appartenance à une culture biblique, annonce de la fin du monde, la conclusion du syllogisme va de soi. Quand on appartient à la culture biblique et qu'on annonce la fin du monde, on annonce également la venue du Sauveur, la venue du Messie. Alors, pourquoi je le dis comme ça? C'est que la figure du Messie en tant que Sauveur est absente du Coran. Comme je l'ai dit, Jésus est appelé le Christ, Al-Masih, mais le Coran dit Issa Al-Masih, Jésus Christ, comme s'il s'agissait de son nom de famille. Le Coran ne dit rien sur le sens très chargé de ce terme judo-chrétien, le Christ en tant que sauveur. Et le Coran, bien qu'il annonce la fin du monde, il ne parle pas du sauveur. Et ça, c'est une anomalie. Et c'est une contradiction également entre le Coran et le Hadith, parce que le Hadith, les traditions prophétiques, en parlent beaucoup. C'est-à-dire, contrairement au Coran, le Hadith, les traditions prophétiques, parlent beaucoup de la fin du monde, mais également de la venue du Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les couches anciennes de Hadith, ce sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, le sauveur des premiers fidèles de Mahomet, qui ne s'appelle pas encore des musulmans, mais qui s'appelle des croyants, c'est Jésus. Donc, vous voyez combien les choses sont complexes, n'est-ce pas? Alors, bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais les choses sont encore plus complexes parce que, pour un certain nombre de fidèles de Mahomet, Ali, donc gendre et cousin germain du prophète, le père de sa seule descendance masculine, et celui qui deviendra le premier imam, le premier guide des chiites, qu'on appelle justement les Alides, les gens de Ali, pour un certain nombre des fidèles de Mahomet, Ali est une manifestation nouvelle de Jésus. Nous avons des textes, des sermons, donc qui remontent à Ali, où il déclare son identité avec Jésus en tant que Christ. Donc, il se nomme le deuxième Christ, Al-Masih Athani. Le second Christ, c'est une expression christologique importante, c'est-à-dire la venue de Jésus pendant la parousie en tant que sauveur de la fin des temps. Et donc, selon un certain nombre de sources anciennes, Ali déclarait être ce second Christ et donc le sauveur de la fin des temps. D'où aussi, je veux dire, sa sacralité, la sacralité de la personne de Ali auprès d'un certain nombre des fidèles de Mahomet, et donc aussi les problèmes de la succession. À la mort du prophète, donc, il y avait une minorité parmi ses fidèles qui considérait que Ali est le seul successeur légitime du prophète. Et finalement, cette minorité a été combattue violemment, et donc quelqu'un d'autre a pris la succession du prophète, mais là, si vous voulez, ça a été le germe du grand schisme, de la grande division de l'islam entre Alides et non-Alides, qui plus tard on appellera les chiites et les sunnites. Mais les choses, si vous voulez, les clivages sont extrêmement anciens. Alors, je terminerai, puisqu'il nous reste peu de temps, c'est que donc, nous avons ce contexte-là, en tout cas, ce sont les perspectives ouvertes par ces dernières décennies de recherche sur les origines de l'islam et du Coran. Nous avons ce contexte extrêmement complexe. Et puis, ce qui arrive, c'est que les conquêtes et la naissance de l'Empire. Et donc là, on change de paradigme. On change de paradigme, on change de planète. Et donc, c'est, si vous voulez, les choses changent surtout, disons, vers la fin du premier siècle de l'islam, du premier siècle de l'Égypte, sous le règne d'un calife qui s'appelle Abdelmalek, comme le rappeur, que certains considèrent comme le véritable fondateur de l'islam. Abdelmalek, c'est un peu le Constantin de l'islam, le cinquième calife omeyyade, donc il a régné aux confins du 7e et 8e siècle. Alors, c'est lui qui va donner à cette religion le nom d'islam. Et il appelle les fidèles de Mahomet les musulmans. C'est lui qui met sur pied un certain nombre de lois extrêmement importantes. Par exemple, c'est lui qui dit que la langue de l'administration doit être l'arabe, parce que jusque-là, les conquêtes ont été tellement rapides que les fidèles de Mahomet étaient les premiers surpris. Et donc, les Arabes ne savaient pas ce qu'est l'administration. Donc, pour l'administration de l'Empire, ils ont recours aux fonctionnaires byzantins de langue grecque ou aux fonctionnaires iraniens de langue moyen-perse. Donc, ça a été le cas pendant près d'un siècle, quelques 70 ans, 80 ans. Et c'est Abdelmalek qui dit que la langue de l'Empire doit être l'arabe. Donc, les fonctionnaires byzantins et iraniens des pays conquis doivent apprendre l'arabe, ou bien les Arabes. c'est lui qui a unifié les poids et les mesures dans tout l'Empire, et c'est lui qui va élaborer la version officielle du Coran, c'est-à-dire la version que nous connaissons, et qui pose beaucoup de problèmes parce que, si vous voulez, ça, c'est une sorte de désordre volontaire. Et donc, déjà, au temps d'Abdelmalek, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accepté cette version-là du Coran, qui était la version impériale, en quelque sorte, la version califale. Et comme que le califat avait beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens n'ont pas accepté cette version centrale, impériale du Coran. Mais Abdelmalek voulait que l'Empire ait sa propre religion, sa propre langue, ses propres écritures. Et c'est lui qui va déclarer les deux villes de la Mecque et de Médine comme les deux villes saintes de l'islam. Jusque-là, la ville sainte par excellence de l'islam, c'était Jérusalem. Donc, si vous voulez, ce qui se passe sous Abdelmalek, c'est une sorte, je dirais, d'arabisation et d'islamisation du message de Mahomet. Et puis, cet aspect universel qu'avait peut-être le message de Mahomet va peut-être être oublié. C'est Abdelmalek qui va déclarer que l'islam est supérieur au monothéisme antérieur, au judaïsme et au christianisme. Donc, en quelque sorte, il cherche à couper le cordon ombilical de cette nouvelle religion avec ses deux parents, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme. Donc, ce qui se met en place, en fait, c'est là, si vous voulez, l'élaboration d'une nouvelle mémoire collective. Abdelmalek fait en même temps, fait tout pour faire oublier l'aspect apocalyptique du message de Mahomet. Parce que, si vous voulez, l'Empire, et puis un État solide, n'a jamais fait bon ménage avec la fin du monde. Hein. Quand on est à la tête d'un État solide, on ne veut pas que le monde prenne fin. Donc, une nouvelle mémoire collective se met en branle, et donc on essaie de faire Abdelmalek, et après lui d'autres califes, en collaborant avec des savants et des juristes, ont essayé de faire oublier en quelque sorte la teneur originelle du message de Mahomet, et donc mettre également sur pied le Coran officiel. Mais on sait que pendant 3 ou 4 siècles, d'autres Corans, au moins 4 autres Corans, différentes dans leur contenu, circulaient sur les terres d'islam. Ça, les sources musulmanes elles-mêmes en parlent. Et bien sûr, les opposants par excellence du califat, c'est-à-dire les halides, les premiers chiites, avaient leur propre version du Coran. Et ils vont garder cette version jusqu'au début du IVe siècle. C'est au IVe siècle de l'Égypte, dixième de notre ère, que finalement les Corans parallèles seront complètement détruits, et par la violence et par la force, tous les musulmans seront obligés d'accepter cette version officielle du Coran. Mais, si vous voulez, cette pluralité du Coran et la mise en question du Coran officiel a duré près de 3 siècles et demi. Donc, vous voyez combien les choses sont complexes et combien les perspectives sont renouvelées pour ce qui est notre vision du Coran et de l'islam. C'est-à-dire, si vous voulez, très probablement, d'après, disons, les dernières trouvailles de la recherche scientifique, très probablement, le message de Mahomet était se présenter, d'ailleurs, le Coran le dit très souvent, hein, Mahomet se présente comme le continuateur de Moïse et de Jésus. Et le Coran comme une sorte de suite de la Torah et des évangiles. Donc, La rupture avec les monothéismes antérieurs ne vient pas du Coran, mais vient du plus tard, des guerres civiles et surtout des conquêtes et de la naissance de l'Empire, donc pour des raisons purement historiques et politiques. Je vais peut-être m'arrêter là, et puis, bon, si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir.
Merci beaucoup, Ali, pour cette introduction, cette première sensibilisation. Je remets ma caméra, tu me vois, enfin, je recours.